Le réveil culturel. Toufik Hakem.
Bonjour tout le monde, ravi de vous retrouver. Le réveil culturel reçoit ce matin Marc Duguin, écrivain et cinéaste. Son dernier livre, Intérieur jour, est édité par Robert Laffont. Mise en scène d'un film, mise en perspective d'une vie ou comment la fiction peut aider à l'introspection. On en parle dans un instant. À la coordination, Corinne Amar, à la réalisation, Vincent Abouchard, et à la technique ce matin, Claire Levasseur.
Le réveil culturel. Lundi, livre.
Bonjour Marc Duguin.
Bonjour.
Quand la mise en scène d'un film devient une occasion d'une mise en perspective de votre vie, c'est ce que vous faites dans Intérieur jour. Votre dernier roman se présente comme le journal de bord du tournage de votre dernier film, L'échange de princesses. Et très vite, au fil des pages de la narration, on verra comment cette fiction ramène à l'introspection. Mais tout d'abord, le fait que vous ayez accepté de porter à l'écran un roman que vous n'avez pas écrit, puisque c'est un livre de Chantal Thomas que vous adaptez au cinéma. C'est la première fois. Les fois précédentes, c'était vos romans que vous adaptiez au cinéma. Là, vous dites que c'est par instinct que j'ai senti qu'il fallait accepter de tourner L'échange des princesses.
Oui, parce que ça s'est passé d'une façon assez particulière. C'est que c'est un peu grâce à Radio France, puisque le livre de Chantal Thomas était Au masque et la plume, et Jérôme Garcin a dit... ça fera un film formidable. Et en fait, ma femme qui écoutait le Masque et la Plume me dit « Je vais le lire et je te dirai si ça fait un film formidable. » Et effectivement, elle a trouvé que ça faisait un film formidable. Du coup, moi, j'ai lu le livre.
Oh, pas tout de suite. Hein, parce que...
pas tout de suite, parce que j'étais pris par tellement de choses à ce moment-là que j'ai dit « Bon, déjà, je vais essayer de savoir si les droits sont libres. » Si les droits sont libres, je lis le livre dans la nuit qui suit. Et à ce moment-là, j'appelle l'éditeur. Et de fait, les droits étaient libres. Et en plus, Chantal Thomas a eu la gentillesse de dire que si je l'adaptais, elle en serait très heureuse. Donc, à partir de ce moment-là, j'ai commencé à partir dans un projet qui a pris quand même quasiment 3 ans de ma vie. À la fois, j'ai trouvé le livre merveilleux, formidable, très cinématographique. En même temps, les raisons profondes pour lesquelles je faisais ce film... elles étaient quelque part, mais elles n'étaient pas révélées. C'est-à-dire
elles vont se révéler au fur et à mesure.
Et elles se sont révélées au fur et à mesure, à la fois du tournage, à la fois de l'histoire elle-même, quand je voyais les personnages, les enfants, ce que ça a pu susciter, réveiller de mon enfance. Et je trouvais que c'était assez intéressant de faire ça comme ça, parce que moi j'ai écrit une quinzaine de livres jusqu'à maintenant. J'ai très très rarement parlé de moi. J'en parle là, mais c'est pas non plus, c'est pas une autofiction, ni quelque chose qui est autocentré. C'est simplement le prétexte de, je trouve toujours intéressant la démarche de la causalité de la création, en fait. Qu'est-ce qui fait, où est-ce qu'on va puiser, en soi pour faire quelque chose? Je dis pas que j'ai fait un film extraordinaire, hein, c'est pas du tout ça. C'est simplement qu'est-ce qui fait, quel est le ressort qui en soi va faire que pendant 3 ans de sa vie, on va aller vers quelque chose. Et ça, je trouve ça...
Et ce vers quelque chose, c'est une vérité sur vous-même, votre famille.
Oui, bien sûr, parce que en écrivant le livre, en plus... Parce que moi, je suis très, très impulsif. C'est-à-dire, quand quelque chose me plaît, j'y vais. Quand, par exemple, une idée de roman me vient, j'y vais. Après savoir pourquoi j'ai fait ce roman, je me dis, j'aurai toujours le temps de le savoir. La question pour l'instant n'est pas de savoir pourquoi je le fais, c'est de le faire. Et je me dis que moins je le saurai au moment où je le fais, plus ça sera spontané. Et donc cette mécanique-là, c'est la même pour le cinéma. Là, par exemple, je travaille sur l'adaptation prochaine d'Eugénie Grandet de Balzac au cinéma. Je l'ai relu par hasard cet été. Et d'un seul coup, je me suis dit, il n'y a aucun autre film. J'avais d'autres projets de films sur lesquels je travaillais. Des idées comme ça, des scénarios. Et là, j'ai dit, c'est ça que je veux faire. Peut-être qu'il faudra un autre livre pour l'expliquer.
Pour l'expliquer, mais là...
Ça tombait tellement dans... Alors là, je suis capable d'expliquer en surface. C'est-à-dire, par exemple, Eugénie Grandet, il y a tellement à voir avec l'avarice et avec la configuration économique d'un système qui démarre en particulier justement au début du 19e siècle et qui encore aujourd'hui est en vigueur et qui, de mon point de vue, nous emmène dans le mur.
Donc résonance avec ce que nous vivons.
Résonance avec ce que nous vivons. Et évidemment, alors là, c'est pas du tout l'opportunisme de ma part, mais il y a un rôle de femme, qui est celui de Jenny Grandet, qui est un rôle aussi qui m'est apparu extraordinaire. Et donc très très vite, ce sujet-là est devenu une évidence. Et ensuite, je trouve que c'est intéressant de se dire, là c'est pareil, je vais passer certainement 2-3 ans de ma vie pour faire ce film. Je ne vais pas faire que ça, mais en tout cas en grande partie. Et se dire quel est finalement le ressort intime qui amène à ça. Et je trouve ça très intéressant intellectuellement.
S'identifier à des personnages de films, à des situations de films, ça nous arrive à nous tous, sauf que il faut rappeler ce que ça a été ce film, L'échange des princesses. C'est un film d'époque, d'une autre époque. On écoute la bande-annonce.
Votre Majesté, il me revient après ces longues années de guerre avec l'Espagne de veiller à tout prix à maintenir la paix. Nous pensons pour cela que votre mariage avec votre cousine Germaine, la fille de Philippe V, le roi d'Espagne, donnerait à la relation entre nos deux pays un tour apaisé.
Ma chère fille, vous voilà désormais reine de France. Quant à vous, mon fils, nous allons vous marier à Louise-Élisabeth d'Orléans.
Je ne veux pas y aller, monsieur.
Vous irez. J'ai assez intrigué pour y parvenir.
Les princesses sont faites pour être mariées et perpétuer une dynastie.
Bon, on se dit que cette époque de Louis XV, de l'échange des princesses, est suffisamment éloignée de votre histoire, Marc Duguin, c'est-à-dire du XXe siècle, c'est-à-dire le siècle qui vous marque, qui a marqué votre personnalité, votre grand-père, votre père et vos enfants. Et pourtant, vous allez, dans ce film, vous allez dresser des parallèles avec votre histoire privée familiale.
Oui, parce qu'en fait, il y a plein de choses qui interpellent quand on lit une histoire comme ça. Je trouve que c'est très intéressant l'histoire de Louis XV, parce que finalement, voilà un enfant qui est un peu dans la situation de certains enfants après la dernière guerre mondiale, en particulier après la Shoah. C'est-à-dire qu'il a perdu tout le monde. Il a perdu son arrière-grand-père, il a perdu son grand-père, il a perdu son père, sa mère, et il vient de perdre son frère. Et il se retrouve à la fois orphelin, totalement seul, et en même temps roi de France, à la tête d'un royaume dans lequel il est évidemment, étant enfant, il y a un régent hein, qui était Philippe d'Orléans, mais il est totalement manipulé. Et je trouvais que c'était intéressant de faire un film sur l'avènement, c'est pas tellement d'un roi, parce que je suis pas du tout fasciné par la royauté, mais l'avènement d'une personnalité par rapport à des difficultés, qui sont évidemment pas des difficultés quotidiennes, parce que il y a très peu de gens qui ont cette expérience. Et ça m'a rappelé beaucoup de choses. Ça m'a rappelé, alors évidemment, après, si vous faites un parallèle exact, ça n'a pas de sens, mais ça m'a rappelé beaucoup de choses de mon enfance. Ça m'a rappelé beaucoup de choses sur la maladie, sur la précarité, sur la disparition. Mmh. Et évidemment, en particulier, les deux grands épisodes, je vais dire, de ma vie, c'est la prise de conscience que mon grand-père, les deux des grands épisodes de ma vie, il n'y a pas eu que cela, heureusement, mais quand j'ai réalisé que mon grand-père était totalement défiguré et que j'ai compris pourquoi il l'était, parce que être défiguré, c'est une chose, mais ensuite, de comprendre qu'est-ce qui avait amené cet homme à être totalement détruit. Et ensuite.
Et ça, vous le dites, hein, parce que on devine quand vous avez écrit la chambre des officiers, qu'il y avait un rapport avec votre famille. Là, vous êtes très explicite.
Oui, c'est-à-dire que bon, j'en ai souvent parlé dans des interviews, ouais. Dans des conférences que j'ai faites, parce que j'ai comme le livre est cette année lu par les élèves de troisième, et ça avait déjà été le cas dans le passé. Donc, j'ai parlé avec des enfants, évidemment, parce que les enfants se demandent toujours. C'était très intéressant. Une fois, il y avait une gamine comme ça qui dit, mais je comprends pas pourquoi vous parlez de ça maintenant. Finalement, ça n'a plus d'importance. C'est du passé. Et il y a une autre gamine qui s'est levée, qui a dit, moi, je trouve que c'est important parce que mon frère, nous sommes croates et nous avons fait la guerre avec la Serbie. Mon frère a été défiguré pendant la guerre. Et donc comme quoi l'actualité de toutes ces situations est toujours là. Et en tout cas, évidemment, ça a beaucoup, entre guillemets, plombé mon enfance. parce que avoir un grand-père. Moi, j'avais un grand-père défiguré, un père qui était à moitié paralysé.
Ouais. Et vous en parlez de ce père handicapé jeune par la polio en pleine guerre,
c'est une,
41. Ouais.
Une maladie qui heureusement a pas totalement disparu, mais en tout cas a disparu sous nos latitudes à peu près. Et oui, il a été foudroyé en 41, alors que déjà les circonstances étaient terrifiantes. Son père était parti à la guerre. C'était une famille extrêmement pauvre. Ouais. Dont il était
obligé de s'exiler aux États-Unis, la grand-mère qui tient seule le bar. Ça, vous êtes allé très loin dans cette introspection, dans ce roman familial, et vous dites même que quand vous étiez enfant, vous aviez à un certain moment peur de vous regarder parce que ça renvoyait à la gueule cassée de votre grand-père et que vous aimiez courir, et ça c'était en réaction à la polio de votre père.
Oui, parce qu'en fait, si vous voulez, les enfants, le traumatisme chez les enfants, il n'est jamais évident. D'abord parce qu'on s'en rend compte avec beaucoup de recul. Et le traumatisme de la défiguration de mon grand-père et de la paralysie de mon père, ces deux traumatismes sont transformés en TOC. Ces obsessions compulsives, c'était que chaque fois que je passais devant une glace, chaque fois, et je m'en souviens très bien, heureusement, ça m'a passé depuis. Mais chaque fois, il y avait une vitre, évidemment un miroir c'était très facile, mais même une vitre, j'essayais de voir le reflet de mon visage, voir si j'étais là ou pas. Et si rien n'avait changé, en fait. Et donc j'ai eu cette obsession-là pendant longtemps, pendant mon enfance et puis le début de mon adolescence. Et il y a eu aussi cette obsession de la course à pied, qui est une obsession très particulière, qui n'était pas du tout avec l'idée de faire de la compétition, parce que je déteste au fond de moi-même la compétition. Je pense que c'est à peu près ce qu'il y a de plus ridicule entre êtres humains, de toujours se mesurer, d'être dans la performance. Mais c'était quelque chose que je m'imposais, c'est-à-dire parfois plus de 100 km par semaine, ce qui est quand même énorme. Et je courais tout le temps, et si je ne courais pas un jour, il y avait quelque chose qui me déstabilisait complètement. Et pendant des années, j'ai couru comme ça. Je me levais le matin, je partais faire 15, 20, 25 kilomètres, parfois 30.
Et vous a fallu ce livre, Intérieur Jour, Marc Dugain, pour expliquer pourquoi, pour faire ce parallèle, que si vous étiez féru du jogging, c'était aussi une manière d'exorciser une peur, parce que votre père était atteint par la polio.
L'âge adulte, c'est quand même, il est en grande partie consacré à comprendre ce qui s'est passé pendant notre enfance. Parce que pendant notre enfance, les choses se passent sans qu'on n'y comprenne rien. C'est tout le problème du traumatisme, c'est tout le problème de la névrose. Bon, la psychose, c'est autre chose, mais c'est une des questions que je pose dans le livre. D'ailleurs, c'est une conversation que j'ai avec mon père sur la part de volonté qu'il y a dans la constitution d'une personnalité. C'est-à-dire, qu'est-ce qui est de notre fait, de notre propre initiative, et qu'est-ce qui est subi et qui est-ce qui s'est engrammé.
Le réveil culturel. Toufik Hakem.
Je me souviens d'un vieux ciné dans le quartier de l'Odéon. Là-bas, pour deux fois rien, on se payait quelques navets. On les chefs-d'œuvre du muet blottis à deux dans un fauteuil, les amoureux suivaient d'un œil indifférent tout ce qui se passait dans la salle ou sur l'écran. Je me souviens de ce ciné dans le quartier de l'Odéon. Parfois on découvrait de vrais trésors au Hôtel du Nord. Et les enfants du paradis, les écoliers, séchaient leurs cours pour y aller rêver d'amour en regardant le corps transi, les dentelles noires d'Arletty. Dans l'ombre, le monde semblait si pur, sans misère, sans guerre, sans rien de dur. Tarzan, Zorro, Pancho Villa, Robin des Bois, triomphait des salauds, nous étions royalistes devant Garbeau. Nous devenions marxistes façon Groucho. Nos héros étaient des héroïnes qui mataient les machos. Je me souviens d'un vieux ciné dans le quartier de l'Odéon. Là-bas, pour deux fois rien, on se payait quelques navets. Les chefs-d'œuvre du muet, tous les Jouvet, tous les Chaplin, le jour se lève Elsa Propine et casque d'or nous en mettaient plein le cœur et c'était le bonheur.
C'était bien sûr Georges Moustaki, Odéon, ce vieux cinéma d'Odéon. Est-ce que pour vous, Marc Duguin, je rappelle le titre de votre dernier ouvrage dans la collection Les Passe-Murailles chez Robert Laffont, Intérieur jour, vous revenez sur le tournage de votre dernier film, L'échange des princesses, une manière aussi de parler de vous-même. C'est vraiment un roman introspectif. Mais est-ce que le cinéma a été aussi formateur que l'histoire de familiale, par exemple, pour vous, les films?
Le cinéma a été très important parce que si vous voulez, quand j'étais enfant, du fait que mon père pouvait très peu bouger, on avait très peu d'activités. J'étais comme tous les enfants, c'est-à-dire j'ai des activités scolaires, il y avait beaucoup de temps consacré en fait à la lecture. Et moi, j'avais la bibliothèque d'histoire de mon père qui aimait beaucoup l'histoire. C'était un scientifique, mais il était très érudit d'histoire. Et donc, il y avait la bibliothèque de mon père qui était très importante. Le cinéma, c'était pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, on se passe n'importe quel film, on le charge sur je sais pas quoi. Moi, je sais pas faire, mais si on veut, je sais qu'on peut voir ce qu'on veut quand on veut. Là, il fallait aller au cinéma, donc c'était aussi un peu plus compliqué parce que il fallait que mon père se déplace. Mais évidemment, j'ai vu plein de films qui à l'époque et c'est vrai que quand j'ai commencé à écrire La Chambre des officiers, je sais plus si je l'ai dit dans le livre ou pas, au départ, je voulais écrire un scénario de film. Et comme je savais pas comment on écrivait un scénario de film parce que c'est une technique particulière, je me suis dit je vais l'écrire sous forme de roman. Et donc je l'ai écrit sous forme de roman. Mais ça aurait très bien pu être un, et d'ailleurs c'est pas étonnant qu'ensuite ça soit devenu un film avec
François
Dupéron.
Vous avez participé à l'adaptation du film d'ailleurs.
Je suis crédité parce que le film étant très fidèle au livre, du coup j'ai été crédité pour l'adaptation, mais c'est à tort à mon avis parce que le François Dupéron a vraiment travaillé tout seul. Et moi, je suis venu sur une journée de tournage, je me souviens, au Val-de-Grâce, et puis voilà, il a fait le film lui-même. Et c'est très bien d'ailleurs, parce que ça, c'est souvent le problème que je n'ai pas eu avec Chantal Thomas non plus, c'est-à-dire que Chantal Thomas m'a laissé une latitude. Alors on a travaillé sur le scénario ensemble, c'était moins de l'écrire ensemble. Parce qu'écrire ensemble, j'y crois pas. Je crois pas qu'on puisse écrire un scénario à plusieurs, sauf quand c'est des scénars de séries, des choses comme ça. Ou alors là, on est dans des writers' rooms avec des gens qui développent un personnage et un autre. Mais quand je parle de cinéma, c'est-à-dire vraiment d'art, il y en a un qui tient la plume. Et puis après, c'est des discussions. C'est des discussions qui dépassent même le cadre du film. Et c'est ce qu'on a eu avec Chantal. On a eu un travail extrêmement intéressant, extrêmement... Et d'ailleurs, on est resté très très proches, alors qu'on se connaissait pas avant le film. Et depuis, on se téléphone tout le temps, on se voit tout le temps, parce que on a eu cette intimité, cette connivence au moment de l'écriture du scénario. Je lui ai dit, écoute, c'est moi qui vais tourner, donc je vais tenir la plume parce que le découpage, c'est un métier. Il faut que je découpe. Mais à chaque fois, je te passerai, tu me dis ce que tu en penses, tu alimentes, si t'as d'autres idées, et ça s'est passé comme ça. Et je trouve ça. Et pour La Chambre des officiers, pas du tout. François Dupéron voulait écrire son scénario seul, et il l'a fait seul.
Et donc, les films qui vous ont marqué, Marc Duguin, pour répondre à la question?
Il y en a tellement, et d'un genre très différent. Par exemple, c'est sûr que Kubrick est certainement celui qui m'impressionne le plus. Barry Lyndon, on en a évidemment parlé, parce que il y a dans le film des choses qui peuvent y faire penser, dans la fabrication de l'image, dans la lumière, mais il n'y a pas que ça. Il y a évidemment 2001, Odyssée de l'espace, il y a Docteur Follamour, enfin tout le cinéma de Kubrick, à part son premier film qui était vraiment très très mauvais. D'ailleurs, je me demande comment il a réussi à en faire un deuxième après le premier. Alors, je me souviens plus du titre, justement, parce que en plus, j'ai pas beaucoup de mémoire, moi, de tout ce qui est titre, choses comme ça, et ce film-là, c'est un désastre, et j'ai jamais compris. Je me suis dit, c'est génial que ce type, qui est vraiment un très très grand réalisateur, en faisant un si mauvais premier film, ait réussi à faire un second, et ensuite n'ait fait quasiment que des chefs-d'œuvre. Et il y a aussi, évidemment, Bergman. Moi, j'aime évidemment beaucoup les films d'époque. Fanny Alexandre, pour moi, c'est un film prodigieux. Je parle du premier film de Ridley Scott avant que Ridley Scott devienne un cinéaste je dirais, d'argent et de grosses productions, parfois un peu lourdes, qui étaient Les Duellistes, parce qu'il a été tourné dans près de chez moi et que j'ai été sur le tournage par le plus grand des hasards, mais parce que j'aime beaucoup ce film aussi. Et évidemment, après, il y a Cassavetes, il y a Sidney Lumet, c'est quasiment infini.
À l'heure où j'écris ces lignes, nous sommes peu à avoir vu le film L'échange des princesses. Ce film est venu à moi plus que je ne suis venu à lui, comme lorsque j'adapte mes propres livres. Une phrase prononcée par un ami d'abord, puis, que ma femme m'a rapportée, a déclenché un processus de plusieurs années. J'ai réalisé ce film sans savoir précisément pourquoi il était pour moi, et c'est à cette question que j'essaye de répondre dans cet opus, dans une quête qui, loin d'être destinée à célébrer le film lui-même, convoque en moi des souvenirs et des réflexions. Des événements parfois douloureux aussi, tapis dans l'enfance, qui sont à l'origine des bonheurs de la création artistique.
C'est ainsi que commence votre roman Intérieur Jour. Par exemple, ce moment qu'on vient d'entendre, qu'on vient de revivre avec vous, on a du mal à l'imaginer adapté au cinéma. Juste ce prologue au cinéma.
Ah, c'est compliqué. C'est compliqué, mais c'est intéressant parce qu'il y a eu il y a eu des expériences comme ça très réussies, comme La Nuit américaine de Truffaut, qui est très intéressante parce que après il y a eu d'autres expériences aussi. Je me souviens d'un film américain, je sais plus, c'est pas Dance with Sharks, quelque chose comme ça, où on voit toute la mécanique de tournage d'un film et tout ce qui se passe et les drames et là. Moi j'ai eu rien de tout ça en fait. S'il n'y avait eu que les anecdotes du film, il y avait absolument pas matière à faire un livre. Parce que c'est un film qui s'est passé miraculeusement sans le moindre problème. Au début, c'était Lily Rose Depp qui devait jouer le rôle principal de Louise Elisabeth. Et puis elle s'est désistée pour des raisons, parce qu'elle vit à Los Angeles, ça, c'était compliqué, elle voulait pas tourner en Belgique. Donc là, il y a eu un moment, un peu d'angoisse, mais ça a duré quelques jours et puis on a réglé ça. Mais sinon, il y a eu aucun moment critique. C'est justement, c'était ça que je trouvais intéressant. Je trouvais plus intéressant de parler d'un film où il n'y a pas d'aspérité dans le tournage, qui sont la raison de raconter des anecdotes finalement.
Je voulais pas
raconter d'anecdotes de cinéma. C'est pas très intéressant. Ce qui est plus intéressant, c'est je suis toujours fasciné par ce processus de la création. Et je le vois chez tous les artistes, parce que j'aime beaucoup, énormément, la peinture, aussi, la sculpture, et la vie des artistes. Je m'intéresse beaucoup aussi à la vie des artistes, et voir comment quelque chose a pris racine dans l'enfance d'un écrivain, ou a pris racine dans l'enfance d'un peintre, et comment cette chose qui peut être traumatique ou qui ne l'est pas forcément.
Mais elle l'a toujours été, Marc Duguin, parce que je me suis posé la question, elle l'a toujours été présente ou elle est de plus en plus présente parce que vous êtes venu père à votre tour.
Oui, parce qu'il y a, en plus, là, si vous parlez de la paternité, il y a la question de la transmission. Mmh. C'est-à-dire que moi, je suis très, très persuadé que l'essentiel... Pour moi, de la transmission, après, ça peut paraître un peu dérisoire de dire ça, mais que ce qu'on peut faire à travers des livres ou du cinéma, il y a une transmission. Mais la transmission, pour moi, elle est avec mes enfants et mes petits-enfants. Elle est très, très, très importante, au sens de ce que moi, je leur transmets comme valeur et de génétique, parce que c'est les deux. Hein. La transmission, c'est de la génétique, c'est des valeurs culturelles, politiques. Et je trouve que c'est quelque chose de très important. Et j'ai jamais négligé, en tout cas, ce rôle-là, ce rôle de transmission, de passage entre mon père, enfin mon grand-père, mon père et mes enfants, au profit de mon travail littéraire ou cinématographique. Jamais, parce que je pense que ça m'aurait complètement pollué mon travail si j'avais eu ce sentiment-là.
Et pour terminer, Marc Duguin, vous considérez comme un écrivain qui réalise des films ou comme un cinéaste qui, par ailleurs, peut écrire des romans ?
Je me considère comme quelqu'un qui a la chance de faire des choses extrêmement intéressantes, surtout. Après, je fais pas de distinction entre raconter une histoire sous forme littéraire, c'est très exaltant parce qu'il y a un champ de liberté qui est total. C'est-à-dire que la considération économique pour un livre, elle est faible. Elle est faible parce qu'un livre, c'est le coût d'un livre, c'est très faible. Le coût d'un film, c'est énorme. C'est des millions d'euros. Et donc les contraintes sont là. Et quelle que soit la liberté qu'on veut revendiquer au cinéma, il y a des contraintes et il faut s'en accommoder. Ah
ben, je vais compris, vous êtes cinéaste et écrivain, mais s'il fallait choisir un des deux.
Ah mais j'ai pas à choisir, sauf si la santé faisait que, parce que les tournages c'est très crevant, beaucoup plus que d'écrire. Donc si j'avais plus la santé pour tourner, j'arrêterais. Mais aujourd'hui, ma vie est organisée pour que je puisse écrire des romans et que je puisse faire des films. Et pour moi maintenant c'est devenu indissociable et je n'ai pas de préférence.
Merci beaucoup Marc Duguin d'être passé ce matin. Intérieur Jour est édité par Robert Laffont.
Merci beaucoup.